Hoy vamos a entrevistar a Manuela de Barros Gasny. Trabajó 7 años como periodista en la radio y la televisión, y hasta escribió artículos. Vamos a descubrir cómo una periodista explora y conoce a la ciudad de Barcelona.
Hola Manuela, le agradecemos el tiempo que nos está brindando. ¿A qué edad decidió que quería ser periodista? ¿Siempre quiso serlo o algo motivó su decisión?
Alors, question intéressante. En fait, j'ai décidé d'être journaliste dans un avion. Ça peut paraître un peu surprenant, mais j'ai décidé d'être journaliste dans un avion à côté de ma mère. À côté de ma mère, qui m'avait présenté l'un de ses collègues qui était journaliste également. Et il m'a donné sa passion, tout simplement. Et j'avais 13 ans. J'avais votre âge, je crois, pour la majorité d'entre vous. Et de là, j'ai décidé de devenir journaliste et j'ai continué toute ma scolarité jusqu'à mes études pour le devenir.
¿Le gusta escribir? ¿Qué le atrae del periodismo?
Demandez à un journaliste s'il aime écrire, je pense qu'il va te répondre oui. Sinon, il ne pourra jamais être journaliste. Par contre, qu'est-ce que j'aime dans le journalisme? C'est la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, la semaine dernière, le 3 mai, c'était la journée mondiale de la presse, donc de la liberté, de tous ceux qui se battent pour la liberté d'expression dans le monde.
¿Cuántos años se necesitan para ser periodista? En la universidad, ¿qué es lo que más se trabaja?
Combien d'années? Eh bien, le journalisme, après avoir eu son baccalauréat en France, que je l'ai eu en France, ça nécessite 5 ans d'études, dont 3 ans qu'ils sont en cours de théorie, où on apprend, où on a beaucoup de pratiques, comment articuler, comment écrire. On révise, en fait, on révise un petit peu la grammaire et la conjugaison et l'orthographe française, qui parfois sont un peu oubliées au fil des ans, normal. Et les 2 années qui suivent, en fait, sont 3 semaines de stage, et une semaine de théorie et de révision intensive.
Después de sus estudios, ¿en qué empezó a trabajar? ¿Fue directamente periodista o tuvo otros empleos?
Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit juste avant. Il y a 3 ans, effectivement, c'est de la théorie. Après, si je commence à parler de ces 2 années où j'étais en stage et donc en apprentissage pratique, j'ai commencé par la radio. Et lorsque j'ai terminé mes études réellement, donc au bout de 5 ans, je suis allée en télévision à M6, aux 6 minutes nationales, pour certains d'entre vous, je pense, devez connaître. Et après, par la presse écrite, avec l'Express, Le Point et le Nouvel Observateur.
¿Tiene alguna anécdota sobre alguien que haya entrevistado y sobre una noticia que haya cubierto?
Une anecdote, oui, j'en ai une. Bon, ce fut, je pense, le pire moment de ma vie en tant que journaliste. Je dois vous le dire, mais bon, il n'y a rien de grave en soi. J'étais en retard, comme quelque chose qui m'arrive assez régulièrement, d'ailleurs. N'est-ce pas, Tessa ? On pourra le confirmer. Et j'étais donc basée à Lyon à ce moment-là. Je travaillais pour une radio pour laquelle je couvrais les matins de l'info de 6h à 9h. Donc il fallait absolument que j'arrive à l'heure. Et un petit peu en retard, je suis allée un petit peu vite sur les quais du Rhône à Lyon. Et malheureusement, il y avait des policiers sur la route qui était en train d'installer un radar, une nouvelle caméra à l'époque. Nous étions en 1999. C'était le nouveau radar qui venait de sortir. Je ne les ai pas vus du tout et j'ai juste démoli le radar. Démoli, embouti le radar. Donc forcément, je n'ai pas été à la radio à 6h du matin, car j'ai vraiment été en retard pour le coup, car mon véhicule a été immobilisé. Bon permis de conduire également, et j'ai eu tort, même s'ils étaient au milieu de la route. Mais bon, une chose est sûre, ils n'ont pas pu prouver que j'étais en excès de vitesse parce que j'avais démoli le radar. Ça, c'est certain. Désolée.
Para todos los periodistas que salieron hace poco de la universidad y que todavía no tienen mucha experiencia.
¿Nunca habéis soñado con tener un simulador de publicaciones para ver cómo podía reaccionar el público ante diferentes noticias y tipos de artículos? ¿Para ver si la gente considera que hacéis un buen trabajo?
Finalmente, se creó SimulaPub, exclusivamente para vosotros. Disponible en todos los cortes español y solo cuesta 1.200 euros. Usted trabaja en varios medios a la vez, pero ¿cuál le gustaba más?
C'est difficile, je pense que tous les moyens de communication sont bons à partir du moment où on peut s'exprimer et avoir le droit de le faire. Maintenant qu'il s'agisse de la radio, de la télévision ou de la presse écrite et d'un autre média qu'on méconnaît davantage qui est la photographie, je dirais que le seul que je n'ai pas fait, c'est la photographie. Et celui dans lequel j'ai eu le plus de plaisir, c'est la radio.
¿Ya no le gustaba su trabajo o hay otra razón por la que dejó de ser periodista?
J'aime beaucoup ce travail, je l'ai toujours aimé et je l'aime encore. Maintenant, pour quelle raison j'ai décidé de le quitter? J'ai décidé de devenir une maman, tout simplement, et que c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et d'avoir toujours son passeport sur soi, car on ne sait jamais le matin lorsqu'on arrive si on doit partir ou pas. Et je ne voulais pas que ma fille soit élevée par une babysitter. N'ayant déjà plus de peur.
¿Qué era lo que prefería del periodismo? ¿Denunciar injusticias?
Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans le journalisme? C'est simplement... C'est difficile comme question, en fait, pour y répondre. Ce que j'ai le plus aimé, c'est pouvoir relater les faits, tout simplement, et permettre aux personnes, à tous les gens, qu'ils soient en train d'écouter leur radio, leur... lire leur journal, pouvoir savoir ce qu'il se passe, et non pas simplement dans leur village, dans leur ville, mais autour, dans le monde entier. Pouvoir informer les gens, tout simplement.
Aunque ya no es periodista, ¿observa alguna diferencia entre el periodismo francés y español? Según usted, ¿tienen las mismas características?
Oui, il y a une différence entre le journalisme espagnol et le journalisme français. C'est certain, le journalisme espagnol, malgré ce qu'on peut croire, le journalisme espagnol est bien plus libre que le journalisme français. La liberté de la presse date de la loi de 1903, pour votre information, mais c'est une liberté qui est censurée dans beaucoup de pays du monde. Et en Europe, malheureusement, la France est le pays qui censure le plus la presse, parce que l'État est détenteur à 53% de la liberté d'expression. Donc, l'Espagne a plus le droit de dire ce qu'elle pense.
¿Ha tenido que cubrir algún caso de corrupción?
Non. Mais je pourrais donner un exemple sur la corruption qu'aujourd'hui, par contre, pour journaliste en herbe que vous êtes ou que vous serez peut-être un jour, donner ça à la personne que vous interviewez, les questions, c'est déjà un début de corruption. Pourquoi ? Parce que lorsque vous interviewez quelqu'un, vous voulez de l'honnêteté et certainement pas qu'il ait eu le temps de préparer ses réponses, parce que sinon la vérité, vous ne l'avez pas.
¿Cree que es más fácil encontrar trabajo de periodista en Francia o en España?
Je ne pense pas que ce soit plus difficile dans un pays que dans un autre, pour être honnête. Je ne pense pas que ce soit plus difficile en Espagne qu'en France. Ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter les débuts d'un journaliste, qui sont souvent difficiles parce qu'ils doivent se vendre, tout simplement, on se vend, pour prouver ses compétences. Après, que ce soit en Espagne ou en France, je ne vois pas de difficulté particulière.
¿Ha descubierto lugares interesantes cubriendo noticias? ¿Cuál, por ejemplo?
Des lieux intéressants, tu en découvres tout le temps. Tu vois, j'ai grandi à Paris, j'ai fait... J'ai passé un petit moment en Angleterre, ensuite j'ai fait mes études dans le sud de la France, et puis j'ai été journaliste, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans différents centres de communication, qu'on peut appeler la radio, la télévision, la presse écrite. Mais ce que j'ai découvert, ce sont pas des pays en tant que journaliste, ce sont plus des endroits, des personnes, qu'elles soient basées à Lyon, dans des villages à côté, qu'elles soient basées dans le sud de la France, avec leurs accents qui sont tellement différents des uns des autres, en Bretagne, avec les Parisiens, en Normandie. Je dirais plus que c'est une découverte de l'humain et une bonne découverte de ce que l'humain peut être.
Diría que el turismo es positivo en Barcelona.
¿Le tourisme à Barcelone? Bien sûr qu'il est positif. Je pense que le tourisme à Barcelone est une très bonne chose et que les Espagnols ont su faire il y a quelques années maintenant. Depuis que la dictature a quitté Barcelone, je pense que a quitté l'Espagne en tout. Les Espagnols se sont ouverts, se sont émancipés à la culture et au tourisme. Et je pense que pour ça, les Espagnols sont grands. Et en tant que journaliste, je pense que le tourisme est quelque chose de très important en Espagne, à Barcelone, parce que c'est clairement la capitale du tourisme, je pense, en Espagne. Même si Séville est est une ville formidable, je pense que Barcelone est clairement une ville très cosmopolite, qui accueille toutes les nationalités du monde et d'Europe. Je pense que c'est un point fort pour l'économie de Barcelone et pour la notoriété de Barcelone dans le monde.
Diría que la arquitectura de Barcelona tiene alguna característica importante?
Je pense que l'architecture de Barcelone a beaucoup, beaucoup de particularités. Donc déjà, on connaît les Espagnols, Gaudi, etc., qui ont fait de Barcelone un site touristique et de pierre d'architecture très, très importante. Mais on peut reconnaître également dans certains quartiers de Barcelone, notamment dans les Ramblés, qu'il y a un petit souvenir haussmannien et qui vient des Français, qui vient de Paris.
¿Ha cubierto algún evento para la sección cultural?
En Espagne, non. À Barcelone, non plus. C'est certain. Par contre, en France, oui, j'en ai couvert plusieurs, en passant par le musée du Louvre, pour lequel j'avais couvert des expositions qui venaient de sortir, et également à plus petit niveau, mais qui restent gravées, dans des écoles, des ateliers d'enfants orphelins, et qui écrivaient simplement des petites cartes pour la fête des mères et la fête des pères de leurs parents qui n'étaient plus là. Et c'était culturel parce qu'après, c'était affiché dans toute la ville, sur les murs de la ville, en souvenir. Je pense que c'était quelque chose culturellement qui était très important dans cette petite ville qui s'appelle Grasse, dans le sud de la France.
Y para terminar, ¿en qué se fijó primero en Barcelona? ¿Cuál fue su primera impresión?
La première chose que j'ai vue à Barcelone, je crois que c'est la Sagrada Familia, un petit peu comme tout le monde, parce qu'on la voit un petit peu de loin. Et comme nous habitions très près, juste quand nous sommes arrivés, en fait, nous habitions très très près, c'est la première que j'ai vue qui est majestueuse, qui est vraiment un monument extraordinaire. C'est également un exemple de l'architecture réussie de Barcelone. Et touristique de Barcelone également, qui est très importante. Après, je ne sais pas, quelle est la... Je pense que la deuxième chose que j'ai vue de Barcelone, en fait, c'est la fourrière de Barcelone, avec ce triangle qui était orange fluo, collé sur le trottoir. Je ne savais pas ce que c'était, et il a fallu que je trouve ma voiture. Et donc j'ai fait la visite guidée des trois fourrières de Barcelone. Sachez qu'il y en a trois, je vous le dis. Excusez-moi.
Gracias, Manuela.
Le agradecemos el tiempo que nos ha acordado y esperamos que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a todas y a todos.
¿Otra vez no has podido cubrir un evento? ¿Incapaz de llegar a tiempo? Te presentamos Perio Auxiliar.
Capaz de hablar, tiene muy buena memoria.
Él puede escribir el artículo sobre el evento que tú te has perdido. Solo tienes que insertarle un artículo tuyo para que se acostumbre a tu estilo de escritura.
Pero cuidado, no te pongas perezoso. Perio Auxiliar solamente actúa en casos de emergencia.
Saldrá el próximo diciembre. Reserva el tuyo desde ahora.
En venta desde 999,99 euros.
¿Qué piensa sobre la gente que compara a los periodistas a los paparazzis?
Ce que j'en pense, c'est que nous ne pouvons pas comparer des pommes et des poires. Et comparer un paparazzi avec un journaliste, c'est faire offense à la liberté de la presse et à tous ces journalistes, grands reporters, qui se battent pour la liberté d'expression, qui donnent la parole à des gens dans des endroits du monde qui n'ont pas le droit de s'exprimer, qui sont bafoués par leur dictature, leur régime totalitaire, et qu'un paparazzi n'est simplement qu'un voleur d'images, qui n'a pas fait d'études, qui sait simplement se servir d'un appareil photo et les vendre aux médias pour atteindre à la liberté de l'image de quelqu'un. Je ne pense pas que dans ta vie, tu aimerais, lorsque tu fermes la porte de ta salle de bain, que tu aies un paparazzi derrière ta fenêtre de salle de bain qui prenne une photo de toi et qui l'envoie à tout le lycée français de Barcelone. C'est une atteinte à ta vie privée et une atteinte à ton honneur. Ce que font les paparazzi. Bon, alors cette petite anecdote, en fait, j'étais en radio, bah, comme ça. Hein, c'est un studio dans lequel, c'est un petit studio dans lequel on est tous présents. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, excepté la fois où malheureusement je n'ai pas pu être au journal en temps et en heure, je le présentais comme je suis en train de vous parler, mais j'avais quelqu'un là derrière, devant moi, et avec un petit écran de télévision qui a mis les Teletubbies en fond. Donc moi, dans mon casque, j'entendais les Teletubbies, donc « Lala ! Oh ! You !» Et garder son calme, garder son sérieux, c'est parfois très difficile parce que bah, voilà, j'avais mon collègue à ma gauche, mon collègue à ma droite et devant cet imbécile qui essayait d'imiter Lala, ça je me rappelle, c'était vraiment Lala en question. Par contre, ce qui était vraiment détestable et pour tout le monde qui m'a écouté, tous ceux qui étaient dans leur voiture, c'est que j'étais en train de parler de la guerre du Kosovo en 1999 et en train d'annoncer la mort de centaines de personnes lorsque j'ai éclaté de rire avec un fou rire incontrôlable. Et ce n'était pas le moment, mais malheureusement, les fous rires, parfois, sont incontrôlables. Et Dieu merci, la radio a mis une musique en attendant et nous sommes revenus. Mais le mal était fait dans tous les cas. C'est comme ça.